7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 15 octobre. Jérôme Cadet, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'hommage de l'éducation nationale au professeur Samuel Paty, assassiné il y a presque un an, le 16 octobre 2020. Le ministère a fait le choix de laisser les établissements très libres dans l'organisation de cette journée particulière. Nous ferons aussi un point sur l'enquête qui implique de nombreux mineurs. Les autres titres, Jérôme.
Anne Hidalgo, officiellement candidate du Parti Socialiste pour l'élection présidentielle, elle va disposer de ses moyens et de ses militants pour redresser sa campagne. Les tests PCR payants à partir d'aujourd'hui pour les Français non vaccinés. Certains sont prêts à passer à la caisse. Reportage à Lyon. Nous serons au Liban après les scènes de guerre hier à Beyrouth. Et puis nous écouterons le dernier titre de la chanteuse Adèle, de retour après 5 ans d'absence.
Invité rendez-vous d'Inter ce matin à 7h40, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Aujourd'hui, le temps de travail des Français, c'est un sujet classique des campagnes présidentielles. Et à 8h20, le grand entretien de la matinale autour de la sortie d'une monumentale grammaire du français, 2600 pages chez Actes Sud et aux éditions de l'Imprimerie Nationale. On en parlera avec Anne Abeillé, qui l'a dirigée, et la linguiste Julie Neveu. Toutes vos questions en français au 01 45 24 7000.
France Inter.
Comment commémorer à l'école l'assassinat de Samuel Paty? Question sensible tant sa mort a bouleversé les enseignants. Il y a un an, le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie de Conflans-Sainte-Honorine décapité à sa sortie du collège quelques jours après avoir montré des caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours. Certains enseignants feront d'ailleurs l'impasse, estimant l'hommage impossible aujourd'hui dans leur établissement. Le ministère ne donne pas de consignes strictes à chaque école, collège, lycée. Sa réponse, avec une minute de silence ce matin. Sonia Princé, les cérémonies seront donc très différentes d'un établissement à l'autre.
Tu n'auras pas la haine, tu n'auras que nos mots.
Certains établissements ont anticipé et travaillé sur l'hommage à Samuel Paty bien avant cette journée officielle. Au collège Rameau, en éducation prioritaire à Dijon, comme l'explique le principal Jérôme Nem, une professeure de lettres a monté une pièce de théâtre l'an dernier avec des élèves.
Tu n'auras que nos regards aiguisés et nos larmes dégoulinantes sur une folie imbécile et meurtrière.
Un spectacle qui s'appelle « Quand viendra le silence » et qui part en fait de cet assassinat et va interroger les valeurs de la République avec des élèves de 6e qui interprètent ces différents rôles. C'est un spectacle qui dure une quarantaine de minutes, qui a été joué au mois de juin et qui a été capté. Et donc on va utiliser ce spectacle pour le diffuser entre 9h et 10h dans toutes les classes du collège et permettre ensuite des échanges dans les classes.
Dans d'autres établissements, l'hommage sera plus simple, selon Gwenaëlle Surel, représentant du syndicat SNPDEN et proviseur d'un lycée à Nantes.
Nous avons convenu qu'il y aurait un court texte proposé par l'équipe de direction et que les enseignants s'en empareraient à leur guise ou pas, en fonction de la classe et puis aussi en fonction de leurs émotions sur une journée quand même qui sera très compliquée pour tous.
Les établissements ont une totale liberté sur l'organisation, l'horaire, une cérémonie qu'ils attendent et qu'ils préparent depuis plusieurs mois avant l'hommage officiel prévu samedi.
Hommage officiel demain, donc un an jour pour jour après sa mort, une plaque inaugurée au ministère de l'Éducation nationale, un square Samuel Paty face à la Sorbonne à Paris et la famille du professeur reçue demain après-midi à l'Élysée. L'enquête, elle, se poursuit. Quels complices ont aidé le terroriste islamiste Abdulhak Anzorov à préparer son crime? Qui a relayé sur les réseaux sociaux les vidéos contre Samuel Paty? Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Service police-justice de France Inter. Particularité de ce dossier, de nombreux mineurs sont mis en cause, notamment ces collégiens payés par le terroriste pour identifier Samuel Paty. Combien sont-ils ?
Eh bien, 5 collégiens sont mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste. Il y a aussi la jeune fille à l'origine de cet engrenage qui s'est révélé fatal pour Samuel Paty, mise en examen pour dénonciation calomnieuse. On le sait, elle n'était pas en classe le jour où Samuel Paty avait montré des caricatures de Mahomet.
D'autres mineurs ont été mis en cause, certains sont en détention provisoire.
Oui, comme l'un des deux amis d'Evreux d'Abdullah Kanzorov, celui qui est allé acheter un couteau avec lui avait 17 ans, mais l'autre avait tout juste 18 ans au moment des faits. Il avait le permis de conduire et c'est lui qui a amené le meurtrier à Conflans-Sainte-Honorine. Il y a sinon une adolescente de 17 ans qui correspondait sur Internet avec Kanzorov. 7 mineurs donc, mis en cause sur 15 personnes mises en examen au total.
Il y a enfin le père de la jeune collégienne, mais aussi un militant islamiste, une nimoise radicalisée et deux correspondant en Syrie.
Oui, la justice a décidé la semaine dernière de maintenir en détention provisoire Brahim Chnina et aujourd'hui, un juge décidera pour Abdelhakim Sefrioui qui avait aidé le père de la jeune collégienne et diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a effectivement cette activiste française radicalisée de 33 ans arrêtée à Nîmes en juin dernier. Elle se cachait sous différents pseudos sur Twitter pour contacter Anzorov. Enfin, deux correspondants en Syrie, mais là, les investigations de la DGSI pour craquer certains messages serait toujours en cours.
Précision d'Emmanuel Leclerc. Ce vaste coup de filet en début de semaine pour lutter contre la pédopornographie en France. 52 personnes interpellées, parmi elles un enseignant de Bédarieux dans l'Hérault. Il détenait 10 000 images à caractère pédopornographique dans son ordinateur.
Il est 7h06. Le Parti Socialiste, Jérôme, a sa candidate pour l'élection présidentielle.
Anne Hidalgo investit hier soir sans surprise plus de 72% des voix des militants face au maire du Mans, Stéphane Le Foll. La maire de Paris espère maintenant que cette investiture va relancer une campagne qui patine. Elle l'a dit à ses soutiens rassemblés hier soir dans une brasserie à Paris. Sur place, Antoine Gignoux.
C'est un nouvel élan, presque un nouveau départ. Anne Hidalgo rappelle en deux mots son attachement au PS, à une gauche de gouvernement, et lance un appel au rassemblement.
Ce soir, partout en France démarre une campagne. C'est parti, allons-y, merci.
Soulagement dans les rangs des militants, ce signal, ce coup d'envoi, Elias et Rodney l'attendaient depuis plusieurs semaines.
On nous a souvent dit qu'Anne Hidalgo était endormie, elle n'était pas encore dans la campagne. Cette fois, on y est, on est très contents.
Moi, je serai demain sur les marchés, à tracter pour elle.
On va ramener des gens, on va parler d'un programme, un programme social, écologique, économique aussi.
Une vraie opposition à Emmanuel Macron.
Et maintenant, voilà, on sera tous unis derrière la candidature d'Anne Hidalgo. Et on espère justement l'union de la gauche.
Quant au mauvais sondage, Olivier Faure, premier secrétaire du parti, ne veut pas les regarder.
Il y a des gens qui sont partis de très bas, qui sont montés de très haut. Des gens qui étaient très haut, qui sont descendus de très bas. Maintenant, il faut que ce soit un combat projet contre projet avec des gens qui disent ce qu'ils veulent faire pour les Français.
Anne Hidalgo sera ce matin dans une maternité pour soutenir des sages-femmes en lutte avant d'aller à Valence parler écologie au congrès du Parti Socialiste Espagnol.
Emmanuel Macron lui retourne à Marseille aujourd'hui, 5 semaines après l'annonce d'un grand plan pour redresser la ville, au programme dîner avec les élus ce soir et participation au congrès national des sapeurs-pompiers demain. Avant cela, le chef de l'État présidera en début d'après-midi aux Invalides à Paris un hommage national aujourd'hui à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération décédé mardi à l'âge de 101 ans.
Et puis il est 7h08, il faut désormais payer pour être testé.
Ouais, à partir d'aujourd'hui, sans ordonnance, fini les tests Covid gratuits pour prendre un train ou aller au resto, par exemple, il faut débourser entre 22 et 44 euros pilule qui ne passe pas chez ces Lyonnais non vaccinés rencontrés dans une pharmacie par Mathilde Imberti.
22 euros, je crois, et le test PCR, 45. Non, c'est juste pas possible.
Amel assure qu'elle va passer de un test par semaine actuellement à zéro, car le fait de sortir de l'argent de sa poche change tout pour cette Lyonnaise de 28 ans.
Je ferai pas de test, j'irai pas manger, je ferai rien, puis c'est pas grave. Quand on veut pas se faire vacciner parce qu'on a pas assez de recul, ben on attend. Je céderai pas non plus.
Ça coince aussi niveau budget pour cette autre jeune fille.
Forcément, limiter les tests et les sorties, du coup. Pas très juste aussi que ça soit les vaccinés qui puissent le faire gratuitement et... Et pas ceux qui ne sont pas vaccinés, mais bon.
Je vous laisse patienter, j'enregistre la dame derrière vous.
La patronne de cette pharmacie, quartier de la Part-Dieu, nous dit qu'elle réalise jusqu'à 30 tests par jour et qu'elle ne s'attend pas à une chute. Noël Chaperon.
Alors maintenant, on a aussi des gens qui ont une suspicion de Covid, parce qu'ils ont mal à la gorge, parce qu'ils ont de la fièvre. S'ils en ont besoin, oui, mais ça, c'est les médecins qui décideront. Ce test, il a prouvé son efficacité dans la lutte contre le Covid, donc il va continuer.
D'autant que certaines personnes non vaccinées se plient aux règles du jeu.
Ça arrive à rentrer en concordance avec mon train de vie, donc ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai pas l'intention d'en faire un toutes les semaines, mais dès que j'en ai besoin d'un, je paierai, ça ne me posera pas de problème.
Et tout cela dans l'attente d'une hypothétique levée du pass sanitaire. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
En Italie, là, c'est le pass sanitaire qui devient obligatoire pour tous les salariés aujourd'hui. Une première en Europe, 3 millions d'Italiens non vaccinés sont concernés. Les syndicats appellent à la grève et au blocage. Au Liban, l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth en août 2020 va-t-elle se poursuivre? Hier, une manifestation organisée par les partis chiites proches de l'Iran pour demander le départ du juge chargé de l'enquête. Cette manif a dégénéré en bataille rangée, combat de rue, fusillade, 6 morts et une trentaine de blessés. Ce matin, les habitants sont toujours sous le choc. Aurélien Collier est à Beyrouth.
La nuit a été calme à Beyrouth où les appels à la désescalade se sont multipliés tandis que l'armée libanaise restait déployée dans le secteur de Taïouné où les affrontements ont éclaté, un lieu chargé d'histoire puisque c'est là que passait déjà la ligne de front lors de la guerre civile. Selon une source au sein de l'armée libanaise, les premiers tirs seraient d'ailleurs venus d'un quartier chrétien sur des manifestants chiites qui se rendaient au palais de justice à l'appel de leurs deux partis, Hamal et Hezbollah, des tirs signés des forces libanaises selon eux qui ont justifié la riposte poste de dizaines d'hommes armés dans leur rang. Ces accusations ont été rejetées hier par cette milice chrétienne reconvertie en parti politique, non confirmée aussi par l'armée libanaise qui a arrêté une dizaine de personnes. Dans une intervention télévisée, le président Michel Aoun a jugé inacceptable ce retour au langage des armes en critiquant les deux camps. « Nous ne permettrons pas que le pays soit pris en otage », a-t-il ajouté, en dénonçant cette fois la démonstration de force orchestrée par les partis chiites avec cette manifestation organisée contre le juge chargé de l'enquête dans l'explosion du port de Beyrouth, une stratégie d'intimidation qui fait craindre d'autres dérapages sécuritaires dans le pays. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
C'est une spécialité française. La France compte deux fois plus de jeunes fumeurs de joints de cannabis de moins de 18 ans que la moyenne européenne. Au moins 1 400 000 Français en fument tous les jours. Pour arrêter, d'anciens fumeurs se tournent vers les cigarettes de CBD, de cannabidiol. Le premier salon du CBD ouvre demain jusqu'à lundi. Porte de la Villette à Paris, salon ouvert uniquement aux professionnels dans un marché en pleine explosion. Thibault Lefebvre.
Joint ou cigarette de CBD, le rituel est toujours le même.
Vous prenez une tête, vous l'effritez dans les doigts comme ça. Une fois effritée, on la mélange à du tabac, on la roule comme une cigarette.
Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire.
C'est ça.
Étienne a commencé le CBD il y a 2 ans et demi. Il a complètement arrêté le cannabis à base de THC et il fume aujourd'hui entre 3 et 4 cigarettes aromatisées par jour.
Ça donne vraiment un effet calmant. C'est une façon de retrouver un peu un charme de ce qu'on avait apprécié sans avoir les conséquences un peu plus difficiles sur le quotidien d'aujourd'hui. Quoi. Ouais, on a des enfants, on a du travail, on doit être actif toute la journée, la vie est assez speed. C'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre d'être défoncé toute la journée, quoi. Je pense que ça correspond plus aux trentenaires, quarantenaires qui supportent plus les drogues un peu trop fortes, quoi.
Et pourtant, si on suit les instructions indiquées sur le paquet de CBD d'Étienne, les fleurs de cannabis ne doivent pas être fumées.
C'est assez rigolo, ouais. Ils le vendent plus comme des choses à infuser, alors que bon, les gens savent très bien que s'ils achètent ça, c'est pour le fumer. C'est comme si on mettait ne pas fumer sur un paquet de cigarettes, en fait. C'est un peu hypocrite.
Étienne achète tous les mois une dizaine de grammes de CBD en boutique ou sur internet et il dépense entre 50 et 60 euros.
Thibault Lefebvre. Et puis son nouvel album ne sera dévoilé que le 19 novembre, mais on en a un avant-goût depuis cette nuit. Le dernier single d'Adèle, publié à minuit, il s'intitule Easy on Me. Album renaissance pour la chanteuse après sa dépression, après son divorce. Vous avez le choix ce matin entre Easy on Me, Adèle, et Santé, le dernier titre de Stromae que nous écouterons tout à l'heure à 8h.
Merci Jérôme Cadet. Dans 3 minutes, secret d'info sur Meir Habib, le député français qui murmure à l'oreille de Benjamin Netanyahou.